Note ce matin, mais mettez-vous à l'aise. Je ne sais pas trop bien si je vais vraiment entrer profondément dans mes notes. J'ai très à cœur ce matin de vous expliquer un petit peu qui je suis pour glorifier celui qui a changé ma vie. Vous savez que l'Évangile, si je pouvais résumer l'Évangile en trois petits mots, nous pourrions dire tout simplement « Venez à moi ». L'Évangile est une invitation de venir à Jésus. Si vous êtes venu ce matin dans cette église, cette belle église d'ailleurs, vous n'êtes pas venu ici ce matin pour rencontrer une doctrine, une théologie. Est-ce que la théologie est importante ? Oui, certes, une bonne théologie. Je connais Lonnie, je connais quelques-uns de parmi vous, et je sais que vous avez une bonne théologie. Mais nous ne sommes pas venus ce matin pour accueillir une théologie ou une doctrine, aussi bonne qu'elle soit. Nous ne sommes pas venus pour rencontrer des personnes, si ce n'est la personne de Jésus lui-même. Donc, l'Évangile, c'est une invitation et tu as parlé du premier ou de la première fois que Jésus a parlé publiquement. Et vers la fin de l'Apocalypse, on voit presque la dernière chose que Jésus a dit. L'Esprit et l'Église disent « Viens ». Et que celui qui entend... Ah bon, j'ai fait ça. L'Esprit et l'Église disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Vous savez, lorsque nous avons commencé à notre église au Puy-en-Velay, nous avons fait démarrer une église au Puy-en-Velay il y a longtemps, dans la Haute-Loire. Et pour ceux et celles qui connaissent le Puy, ce n'est pas une ville facile. C'est une forteresse catholique, voire même plus grave que ça encore, difficile. Et nous sommes arrivés, toute une équipe de Bethany, de la même école que Dimitri et Katie. Et nous n'avons jamais eu de formation pour démarrer une église. Je n'avais pas fait un séminaire théologique. On a fait une petite école biblique et on n'était pas prêts. Alors je me souviens, on luttait beaucoup. Et je me souviens combien j'étais tourmenté par les opinions de mes amis. Oui, les amis, mais des vrais amis. Qui suggéraient qu'on fasse ceci ou qu'on fasse cela. Il faut ne pas faire ça, il faut faire ceci. Et là, j'étais confus. Et il y avait un collègue que j'estime beaucoup, même à ce jour-ci, il est toujours aux États-Unis maintenant, c'est un ami à moi, et je n'oublierai jamais cette phrase qu'il a sortie, cette phrase qu'il m'avait dit. Je vais rester un petit peu proche du pupitre là, parce que sinon, je suis attaché, je vois ça. Je ne voyais pas que j'étais attaché, mais... Et il m'avait dit cette phrase, « Francis, nous n'avons rien à donner aux Français. » Nous avons été intimidés par les Français, on était entourés, on apprenait la langue, la culture, etc. Et nous avons été complètement dépassés. Et j'ai crié au Seigneur, et voici ce que le Seigneur m'avait dit. Il a envoyé un pasteur qui nous a parlé de Moïse et de Buisson Ardent. Vous connaissez l'histoire de Buisson Ardent ? Dieu qui se manifeste à Moïse dans le désert, dans un petit buisson tout ordinaire. Et j'étais interpellé parce que j'avais dit au Seigneur, mais qui suis-je? Non, mais franchement, chers amis, je me sentais vraiment petit. On a parlé de la grandeur de Dieu ce matin. Et tout à l'heure, nous allons parler de la petitesse de l'homme. Et j'ai demandé, Seigneur, mais qui suis-je? Je n'étais pas à la hauteur. Et pourtant, j'étais, entre guillemets, directeur de la mission. Moïse dit à l'Éternel, qui suis-je? Dieu dit en quelque sorte à Moïse, si vous permettez de paraphraser un petit peu, il a dit, mais Moïse, ce n'est pas important qui tu es, mon cher Moïse, c'est important qui je suis en toi. Ce qui est important, c'est qui je suis en toi. Mais Moïse, justement, il a dit, mais si tu m'envoies vers ce peuple, vers Pharaon et compagnie, je ne connais même pas ton nom. Qui est-ce qui m'envoie? Et il a dit, je suis qui je suis, t'envoie. Je suis qui je suis, le nom de Dieu, qui est imprononçable. Yahweh, je suis l'éternel être. En français. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. El Shaddai. Alors à ce moment-là, le Seigneur m'a parlé beaucoup du nom de Dieu El Shaddai, le Tout-Puissant. En français, on pourrait traduire El Shaddai comme le tout suffisant, ou celui qui suffit. Et le Seigneur commençait à me montrer, en dépit de mon éducation, ou mes capacités, il commençait à me montrer que celui qui suffit était en moi. Le tout suffisant. Je suis celui, et on peut mettre presque n'importe quel verbe après, je suis celui qui guérit. Je suis celui qui sauve. Je suis celui qui délivre. Je suis celui qui encourage. Je suis celui qui vous appelle. Venez à moi. J'aimerais lire un passage, on va regarder ensemble dans Matthieu chapitre 11, un passage qui nous est vraiment familier, mais que nous aimons beaucoup, verset 25. Bon, c'était après les miracles qui ont été produits à droite et à gauche, à Tyr et à Sidon. À Bethsaïda, des miracles accomplis au milieu de vous, l'avaient été dans Tyr et Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis. Et au verset 25, à ce moment-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. » Oui, Père, je suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Verset 28. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Il y a deux choses que j'ai soulignées dans ce passage. L'invitation de Dieu, la grâce de son invitation, venez à moi. et la petitesse de l'homme. La grâce de notre petitesse. Je loue le Père de ce que tu les as révélés aux enfants. La capacité de Dieu parmi les enfants. Je ne sais pas, mais l'autre soir, j'ai eu l'occasion, on enseigne de l'anglais dans une cité qui n'est pas, bon, qui est à Marseille, qui s'appelle Herbel, pour ceux qui connaissent. Et nous avons des jeunes et des enfants qui viennent pour enseigner le français. Il y avait un jeune de 17 ans, Yanis, qui m'a posé certaines questions par rapport à Jésus en me disant, mais Jésus, c'est quelqu'un qui est difficile à comprendre, il me dit. Et je lui ai dit, Yanis, si tu veux vraiment comprendre Jésus, nous allons chercher et trouver des passages là où Jésus parle aux enfants et des enfants. Parce que Jésus a dit tout simplement par rapport aux enfants que les enfants ressemblent au royaume des cieux. Rappelez-vous quand les disciples de Jésus ont posé la question à Jésus, mais qui sera le plus grand dans le royaume ? Il a dit que Jésus a pris un enfant et l'a placé au milieu d'eux. Et il leur a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça m'encourage énormément. Et c'est pour ça que j'aime tellement les enfants. La capacité de Dieu parmi les enfants. J'ai trois petits-enfants. Un quatrième qui se prépare. C'est un enfant. C'est un être humain. Il n'est pas encore sorti, mais il est là ou elle est là. Et quand je vois ici en France, dans la Drôme, les deux petits-enfants, il y a Savannah qui a 6 ans et Isaiah qui a 3 ans et demi. Et de temps en temps, les choses qu'elles me disent, qu'ils me disent par rapport à Dieu, ça me bouleverse franchement. Et ce qu'ils entendent, ils captent, ils répètent, ils apprennent, ils ont une capacité énorme. Mais je pense ce matin à David face à Goliath. Ce qui est bien par rapport à ces histoires, c'est que je n'ai pas à vous raconter toute l'histoire parce que vous connaissez au bout de vos doigts. Qui n'a pas chanté David et Goliath à ses enfants ou à ses petits-enfants, raconter l'histoire, les enfants, ils adorent ça. Le géant Goliath. Et David face à lui, David dit à Saul, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Oh, j'imagine qu'il avait dit avec plus de force et de rage. Ton serviteur ira se battre avec lui. J'imagine que Saül, il a rigolé. Pour qui tu te prends? Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu n'es qu'un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Parfois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois je me sens, face à la télévision, les choses qui se passent dans ce monde, on est menacé. Par tout ce qui gravite autour de nous, de négatif, des menaces, des guerres, des tueries, des bêtises. Et parfois, on peut avoir l'impression que le monde rigole sur nous. Nous connaissons la suite de l'histoire. David, qui ne s'est pas laissé faire. Il a pris une petite pierre bien ronde dans sa lance-pierre. Et je me souviens de mes deux garçons, Jean-Luc et Josué, qui chantaient ça. Et chaque fois, David a gagné, à chaque fois. Et le géant est tombé. Gédéon, la capacité de Dieu parmi les enfants. Gédéon, Juge chapitre 6, l'Éternel leur envoie un prophète et il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai livré de la domination des Égyptiens et de tout ce qui vous opprimait. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel, Yahweh, celui qui est, qui était et qui viendra. » Vous ne craindrez pas les dieux des Amoriens, même si vous habitez dans leur pays, mais vous ne m'avez pas écouté. Et puis après, il parle à Gédéon. Gédéon, on sait que dans l'Exode chapitre 6, que Dieu a donné la promesse des délivrances des enfants d'Israël. Nous allons lire ça dans un instant. On donne les deux grandes déclarations de Dieu. Exode chapitre 6. Chose promise, chose due, on va le lire tout à l'heure. Mais des deux grandes déclarations du Dieu. Et j'aimerais vivre ma vie entourée de ces déclarations de Dieu. Je suis et je ferai. Je suis, dit Dieu, et je le ferai, dit Dieu. Mais Gédéon, face à tout ça, face à ses ennemis, parce que vous allez vous souvenir du passage dans les Juges où il devait se cacher dans les ravines, dans les montagnes, dans les caves, dans les tunnels même. Tellement ils ont été tourmentés, poursuivis. Et Gédéon, il dit, « Je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais... je serai avec toi. » Voilà la promesse de Dieu qui change tout. Nous avons fait cette implantation d'église. Nous avons démarré cette église au Puy-en-Velay, qui existe toujours d'ailleurs. Grâce à cette promesse de Dieu que je serai avec toi. Pour vous qui travaillez dans le ministère, et vous travaillez tous dans le ministère si vous êtes chrétien. La réussite, et d'ailleurs, c'est intéressant que Jésus, dans Louis II, dans le Nouveau Testament, Jésus, et dans les autres traductions, dans les évangiles, Jésus n'a jamais prononcé en français. Je ne sais pas si Jésus parlait le français, j'imagine. Il n'a jamais prononcé ce mot « réussir », ce verbe. Jamais. Il n'a jamais parlé de la réussite, il a parlé de l'obéissance. Il a parlé beaucoup de la relation. Mais pour vous qui travaillez dans le ministère, autrement dit, nous tous, la promesse est pour nous. « Je serai avec toi ». Le plus grand dans le royaume du ciel. Ça me fait penser à mon frère qui s'appelle Gene. G-E-N-E, Gene. C'est l'une des personnes la plus talentueuse que j'ai jamais connue. Je ne dis pas simplement parce que c'est mon frère. J'ai deux frères. On était trois garçons et mon frère Jean, il a pris tous les talents pour lui-même. Non, mais franchement, il y a eu des chaînes de télévision qui sont venues à la maison, des radios. Il était très, très doué. Imitateur. Il arrivait à imiter n'importe... Enfin, il était très, très doué. Je me souviens, j'étais à la maison, c'était pendant... la période des vacances d'été, j'étais à la maison chez ma maman. Quelqu'un frappe à la porte, j'arrive. J'ouvre la porte et qui c'est ? Le lieutenant Colombo. En chair et en os, avec son imperméable froissé, beige, cigare à la bouche, les fenêtres, les lunettes de travers, et il me parlait comme s'il était le lieutenant Colombo lui-même. Là, j'étais mort de rire. J'étais par terre. Quel talent! Et pendant des années, quand j'étais à l'école biblique, et puis pendant des années après, je m'étais toujours dit, mais si seulement Jésus pourrait saisir cet homme, si seulement il se donnerait à Jésus, une fois pour toutes, mais quel outil, quel instrument puissant Dieu aurait dans ses mains? Et vous savez, finalement, ce que Dieu m'avait dit, je m'en fiche de ses talents. En effet, l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur, lui, est attaché sans réserve. C'est ça que le Seigneur cherchait de mon frère, le brisement de cœur, l'abandon. Certes, le Seigneur nous a donné des talents. Parmi vous, vous connaissez bien, vous savez déjà, bon, celui-ci ou celle-là, elle a beaucoup de talents. Il a beaucoup de talents. C'est une personne talentueuse, capable de faire beaucoup de choses. Méfiez-vous. Ce ne sont pas des talents que Jésus cherche ce matin. C'est la petitesse. Frère, tu as mentionné ce matin, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean chapitre 3, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il parlait de Jean-Baptiste. De tous les hommes nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu chapitre 11. Pour donner juste un peu de clarté là-dessus, j'ai posé la question à mon épouse Sandra. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Jean, on n'est pas plus grand que Jean? La réponse est, ah que si. Plus grand que Jean-Baptiste, oui. Pourquoi? Tout simplement, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Toi, mon frère, tu es porteur de la présence de Jésus. Si tu es né de nouveau, si tu as abandonné ta vie à Jésus, tu as l'assurance du salut, tu sais que tu es né de nouveau, tu es porteur de la présence de Jésus. Ce n'est pas une chose anodine. Ce n'est pas quelque chose de léger, ça. C'est énorme. Car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor. Un petit temps d'arrêt là, parenthèse, pendant que j'y pense. Jésus, ce Jésus dont nous parlons, Jésus qui a marché en Galilée, Jésus qui a fait des miracles, Jésus qui a ressuscité des morts, Jésus qui a donné des enseignements sur la montagne, le message, le sermon sur la montagne. Jésus, ce même Jésus, c'est ce même Jésus qui est en toi. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas un moindre Jésus, ce n'est pas un petit Jésus, ce n'est pas une forme de Jésus, ce n'est pas un Jésus différent. C'est le même Jésus, le Tout-Puissant, celui qui est, qui était et viendra, et qui viendra. C'est ça, ce Jésus qui est en toi ce matin. C'est la grâce de la petitesse de l'homme que Jésus a voulu habiter. Oh, il y a tellement de choses ce matin, ça remplit mon cœur parce que ça me donne tellement de courage. C'est pour ça que nous sommes restés en France aussi longtemps, sinon nous serions partis il y a très longtemps. Parce qu'on n'avait pas la capacité, on n'avait pas la formation, on n'avait pas la hauteur, l'éducation qu'il fallait pour faire face à l'incrédulité qui règne en France, mais qui règne de moins en moins. Alléluia. C'est la grâce de la petite. Je dis ça à mes étudiants. Je leur dis d'emblée, tout de suite, en arrivant en France, je leur dis, vous êtes les porteurs. Parce que souvent, ils se sentent tellement petits et inutiles. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Je ne parle pas bien le français. Qu'est-ce que je peux faire? Je me sens inutile. J'ai un gars qui est là, je parlerai de lui. Je sais que s'il était là, il me permettrait. Il s'appelle Marc, il a 51 ans. Il a son parcours, il a son témoignage, il a vécu certaines choses dans sa vie, mais il est là à Marseille, 51 ans, et c'est difficile, il apprend difficilement le français. Il a besoin de Déborah peut-être pour apprendre le français davantage. C'est peut-être une idée aussi. Je sais qu'elle enseigne le français. Mais et il veut être utile pour Jésus. Et dès qu'il arrive, je lui dis, tu portes avec toi la gloire de Jésus. Nous sommes des porteurs de la gloire de Dieu. Il a dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Il n'y a pas longtemps, Sandra et moi, nous étions bloqués dans un arrêt de bus. Je ne me souviens plus. Je crois que c'était lorsque nous sommes venus avec une équipe américaine pour évangéliser dans les universités. Je crois que c'était à ce moment-là. Je ne me souviens pas très bien. Mais on était dans un arrêt de bus et il n'y avait plus de lumière dans l'arrêt. Et c'était tard le soir et on venait juste d'arriver à Marseille. Et c'était 10 heures du soir. On ignorait qu'il n'y a pas de bus. Il y a des bus de nuit, mais là, il n'y avait pas de bus. Et de l'autre côté de la rue, dans l'obscurité, il y avait... Quatre hommes. Nous avons compris plus tard qu'il s'agissait des hommes algériens. Et l'ancien est venu me parler à moi, correctement. « Monsieur, vous allez où ?» J'ai dit, « Nous allons à cette adresse, mais apparemment, il n'y a pas de bus. » Il a dit, « Non, il n'y a pas de bus. Mais si ça ne vous ennuie pas, si vous voulez monter avec mes frères, ça va être serré, mais je peux vous amener. » Alors, je regarde à Sandra, elle me regarde et elle me fait « Ok. » On est monté dans la voiture, mais on s'est bien serré comme des sardines. On a tchatché tout à long, comme ça, de rien. C'était sympathique, bon, on n'a pas beaucoup parlé. En arrivant devant la maison, j'étais un petit peu soulagé quand même. On descend de la voiture et l'ancien du groupe, l'aîné. « Monsieur, écoutez, s'il vous plaît, mes frères et moi, nous aimerions vous dire quelque chose. Nous aimerions que vous sachiez que nous vous considérons comme un prince dans cette ville. » Voilà, attendez. Merci. Merci beaucoup. On descend de la voiture, je ferme la porte. J'entre chez mon ami, je lui explique. J'ai dit, c'est peut-être un truc de chez eux qu'ils disent tout simplement à tout le monde pour encourager. Et il a dit absolument pas. C'est étonnant. Finalement, Sandra et moi, dans toute humilité, et je dis ça sincèrement, nous avons su, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait de la présence de Jésus, que nous portons avec nous le parfum de Jésus. Quand vous allez dans le quartier, sachez que vous laissez une odeur, selon Colossiens. Et cette odeur, c'est l'odeur de Jésus. la grâce de notre petitesse. Et ensuite, la grâce de son invitation. Venez à moi. Venez à moi et je ferai. Quel est le plus beau mot de la Bible? On a parlé de la grandeur de Dieu, c'était magnifique ce film ce matin. C'est puissant, c'est étonnant. On n'arrive pas à capter vraiment ce que tout ça veut dire, la grandeur de l'univers. Mais quel est le plus joli, plus beau mot de la Bible? Il y en a beaucoup. Amour, grâce, vie. Mais mon choix, à moi, c'est venez. Venez. Écoutez, si Jésus était là ce matin, je répète, si Jésus était là ce matin,
il est là.
Voilà. Voilà, j'ai attendu à ce qu'on le dise. Il est là. S'il s'adressait ce matin, ici, à cette chair, derrière, je crois que la première chose qui sortirait de sa bouche serait « Venez à moi ». Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Lorsque les disciples, après l'arrivée, après Jean-Baptiste a annoncé « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » dans Jean chapitre 1. Le lendemain, il dit qu'il était avec deux de ses disciples et il a vu Jésus qui passait et il a dit « Voilà, voilà l'agneau de Dieu. » Et ses disciples se sont mis à suivre Jésus et Jésus se retournait pour leur demander « Mais qu'est-ce que vous cherchez ?» Ils ont posé la question « Où est-ce que tu habites ? Où est-ce que tu habites ?» Il suffisait simplement de dire, il suffisait simplement qu'ils disent « Venez et voyez. Venez et voyez. » Jésus marche le long de la Galilée, la Galilée. Il voit Simon et André, le frère de Simon, ce sont des pêcheurs. Et ils sont en train de jeter un filet dans le lac et Jésus leur dit « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. Donc nous avons lu « Venez à moi et je vous donnerai du repos. »« Venez à moi et je vous donnerai du repos. »« Venez à moi, donc je suis. »« Venez à Jésus, je suis et je ferai. » Suivez-moi, suivez-moi. C'est marrant, comme un petit son de téléphone comme ça, ça me complètement. Et c'est pas grave, ne vous en faites pas, c'est pas grave. C'est parce que on est tellement, je suis tellement attaché à mon téléphone. Vous avez déjà été dans le bus ou dans le métro et le téléphone de quelqu'un sonne et tout le monde cherche le téléphone. Tout le monde en même temps cherche le téléphone. Ce sont des pêcheurs, ils sont en train de jeter le filet. Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissent leur filet et ils suivent Jésus. Venez et je ferai, nous parle de son œuvre de délivrance. Venez avec moi et je ferai le reste. Ça parle de la délivrance. On va lire comme je vous ai promis. Vous voyez, je vois que vous avez cru que j'ai oublié de lire Exode chapitre 6. Je suis fier de moi-même. Je m'en suis souvenu. L'invitation et la présence de Dieu pour la délivrance d'Israël. Chapitre 6, on va lire, on verra ça. L'Éternel dit à Moïse, « Tu vas voir maintenant ce que je ferai au Pharaon. Une main puissante le forcera et le laisser partir. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Verset 2. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, « Je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. » On a dit ça, le Dieu Tout-Puissant, c'est El Shaddai. Mais je ne suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom, l'Éternel, Yahweh. Verset 4. J'ai aussi J'ai aussi établi mon alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné en étranger. Verset 5, j'ai entendu les gémissements des Israélites que les Égyptiens tiennent dans l'esclavage, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous libérerai des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage. Je vous rachèterai avec puissance par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple et je serai votre Dieu. Et ainsi de suite. Afin de suivre Jésus, Simon et André ont dû tout laisser. Il y a un prix à payer. Jésus nous invite ce matin à venir, mais il nous invite à le suivre. Et pour le suivre, il y a quand même un prix à payer. André et Simon, ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Je ne sais pas si... Moi, je ne peux pas imaginer ce que ça veut dire. Toutes nos affaires personnelles sont stockées dans un garde-meuble dans le troisième, ici à Marseille, au métro Bougainville. Depuis 3 ans et demi, parce que nous cherchons une maison. Mais le Seigneur nous invite à le suivre et on doit tout laisser pour le suivre. Je commence à me demander si... Si on laissait toutes nos affaires personnelles dans ce garde-meuble, qu'est-ce que ça pourrait changer? Parce que le Seigneur est tellement fidèle à notre sujet. Il prend soin de nous. Quelqu'un gagnerait des meubles. Et quelques cannes à pêche. Des jolies cannes à pêche, d'ailleurs. Tant pis. Mais ils ont tout laissé. Mais je crois que ce n'était pas seulement ça. Luc chapitre 5. Après cela, Jésus sortit et y vit un publicain nommé Lévi. Assis au lieu des payages, et il lui dit, « Suis-moi. » Et en laissant tout, il se leva et le suivit. Luc chapitre 5, 27, « L'ayant regardé, Jésus l'aima. » C'est le jeune homme riche. Le jeune homme riche qui, quand même, est venu à Jésus en courant. Parfois, on est oublié de faire mauvaise presse sur le jeune homme riche, comme quoi... Il ne voulait pas vraiment suivre à tout prix, tout laisser pour suivre Jésus. Mais rappelons-nous, il est venu en courant. On ne connaît pas la fin de l'histoire de cet homme, n'est-ce pas? En tout cas, si vous connaissez la fin de son histoire, dites-moi, parce que je ne crois pas que c'est écrit. Mais je crois, moi j'ai de l'espoir pour cet homme. Et l'ayant regardé, Jésus l'aima et lui dit, et c'est pour ça que j'ai de l'espoir, parce que Jésus l'aime. « Il te manque une chose, va, vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. » Et pas seulement un trésor dans le ciel, mais un trésor ici, dans le cœur. « Puis viens, charge-toi de ta croix et suis-moi. » De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa maman, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Jésus nous invite, certes, mais il nous invite à le suivre. Et suivre Jésus, c'est tout laisser. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser tomber le travail, le boulot? Non. Il faut mettre la nourriture sur la table. Il faut manger. Il faut s'habiller. Il faut vivre. Mais je n'ai pas à vous dire ce que ça veut dire, en sachant que vous êtes une église de bonne doctrine. C'est lorsque ce que nous avons lu dans 2 Chroniques, chapitre 16, que le regard de l'Éternel parcourt toute la terre, cherchant celui ou celle qui a le cœur tout entier à lui. Et si vous voulez bien m'accorder juste une petite marge de manœuvre théologique, juste une petite marge de manœuvre, j'aimerais terminer en lisant ce passage dans Exode 6. Et J'ai rajouté juste deux mots avant chaque phrase. Et ces mots, c'est suivez-moi. Vous allez comprendre ce que suivre alors veut dire. Suivez-moi. Exode, chapitre 6. Suivez-moi et je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Suivez-moi et je vous délivrerai de leur esclavage. Suivez-moi et je vous rachèterai avec puissance et par de grands actes de jugement. Suivez-moi et je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Suivez-moi et je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Suivez-moi et je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Suivez-moi et je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Seigneur, nous te louons parce que tu nous appelles ce matin. Tu nous invites. Tu regardes notre petitesse, que nous ne sommes que des enfants. Nous avons des manquements, nous avons des lacunes, des besoins de toutes sortes. Mais tu as voulu nous visiter par ton esprit, par ta personne de Jésus. Et nous te louons ce matin, Jésus, pour cet appel. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Apprenez de moi. Seigneur, nous venons et nous voulons te suivre. Nous avons besoin de ta grâce pour te suivre, pour tout laisser, pour jeter des filets, pour tout laisser derrière nous, Seigneur. Et ce jeune homme riche qui est venu en courant, le prix était trop. Il ne pouvait pas se séparer de son argent. Mais Seigneur, tu l'aimes. Tu l'as aimé, tu l'aimes encore aujourd'hui. Et Seigneur, je prie pour celui ou celle ce matin qui hésite, qui a envie de te suivre. Et il sait, elle sait de quoi il s'agit. Seigneur, je prie pour lui, je prie pour elle. Et que vous sachiez, que tu saches, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais que tu saches qui t'appelle. Il t'invite et il te comblera. Il te donnera de ce dont tu as besoin pour aller jusqu'au bout. Parce que tout est grâce. C'est par sa grâce, sa puissance et pour son honneur et pour sa gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te loue, Seigneur Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Merci.